temps de les mêler pour que je subisse aussi.
Ce soir, au cabinet des banalités, François Provost, Raphaël Laverdière et Émile Lapointe vous parlent du rire.
C'est un piaf comme un autre, hein, mais il faut reconnaître, il fait des farces, il emmerde les autres oiseaux, il vole de travers en faisant croire qu'il est blessé.
Quel rapport avec la fête de demain?
Eh ben voilà. Tous ces cons d'anciens druides n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser des séances où il faut se pointer au milieu de tout le monde et improviser des blagues. Ça rappelle le corbeau, vous voyez?
Improviser des blagues?
Exactement, c'est pas con, ça.
Mais vous êtes fort, ça, vous?
Nul.
Nul?
Zéro, une vraie bille, je plombe l'ambiance en 30 secondes.
Oh bah d'accord, commencez par là, c'est pour ça que vous voulez pas y aller.
Ah bah c'est surtout pour ça. Et en plus, y a pas d'alcool.
Alors, ce qu'on entendait à l'instant, c'était un extrait de la série Kaamelott, où on entend le roi Arthur s'entretenir avec son enchanteur Merlin. L'enchanteur qui ne veut pas aller à un rassemblement du corbeau. On n'a pas saisi cette information à cause d'un petit problème technique, mais on parlait ici du corbeau quand on parlait de l'oiseau.
L'oiseau qui fait des tours, là?
Oui, qui apparemment est un oiseau farceur et qui invite à improviser des blagues, Merlin étant vraiment pourri pour improviser des blagues, surtout parce que, comme il l'a dit, il n'y a pas d'alcool. Donc, personne ne va rire à ses blagues vu qu'il n'y a pas d'alcool.
Bon, ben pour nous, pour l'émission sur le rire, il faudrait essayer d'au moins être au niveau du corbeau.
Au moins quelques farces
au courant de l'émission.
Ben oui, mais je parle de Kaamelott comme ça, mais je tiens à le dire à nos auditeurs parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Premièrement, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. C'est en français en plus, c'est super. Fait que vous pouvez la monter à vos parents si vous voulez. Puis le film. Ben, en tout cas, moi, mes parents, ils parlent pas tant en anglais. Fait que tu sais, ça, c'est bon là, que la série soit en français. C'est ça que je veux dire. Et.
J'aime que les, pour acquis que n'importe quel parent n'est
non,
pas
ben
capable
non,
de cerner
ben
quelque
ben
chose.
Bon,
autre
bon,
que
bon, bon, bon.
Ah, tu nous fais rire. T'es le corbeau, Émile.
T'es le corbeau. Je voulais juste dire que le film est sorti le 23 juillet. Donc, ça fait 3 jours que le film est sorti. À ce qui paraît, c'est bon, allez voir ça. Donc, c'est ça, ben, vous l'aurez deviné. Hein? Aujourd'hui, on parle
du rire. Ben oui, comme à toute émission, puisque le cabinet des banalités, on s'attarde toujours à ce qui touche notre quotidien, ce qu'on fait à tous les jours, mais qu'on dirait qu'on oublie. Le rire, on le fait à tous les jours. Ben, on le souhaite que tout le monde le fasse à tous les jours. Hein?
Ouais.
Parce que la semaine passée, on parlait d'hygiène. Là, on est beaucoup plus dans le ludique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mmh. Puis toi, Raphaël, qui n'a pas encore adressé
elle a seulement ri.
J'ai seulement ri, oui.
Ah, mais c'est vrai, le rire est communicateur, hein? Parce qu'on entend quelqu'un rire, puis on dit, voyons, elle parle, elle est là.
Est-ce qu'on fait toute l'émission de même?
Ça sera je pas. oui, bref. J'ai l'impression d'être celle qui vous ramène à l'ordre. Oui, moi, le rire... Je suis allée à la bibliothèque. Ma vie commence souvent. Les aventures de ma vie commencent souvent dans une bibliothèque. Je suis allée dans une bibliothèque pour emprunter un livre sur le rire. Ça s'appelle Le rire, sa vie, son œuvre. C'est de Robert Provine, qui était un neurobiologiste et spécialiste du rire. Donc, ça a été un des grands chercheurs sur le rire, quelqu'un qui a vraiment consacré des années de recherche sur ce petit ha-ha.
D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un terme pour la recherche sur le rire, la gélotologie. Je savais pas qu'il y avait un terme qui était réservé à l'étude du rire.
Qui est quand même lui-même comique, là. Gélotologie.
On peut pas dire gélotologie.
Hein. Gélo, ouais, ils l'écrivent comme ça avec un tiret. Gélotologie.
Bref, dans son livre, j'ai trouvé un petit passage que je voulais vous partager, puis je trouve que ça nous ouvre bien la porte au reste de l'émission. Ça va comme suit. Une fois rentré chez lui, comment un extraterrestre venu en visite chez nous décrirait-il à ses congénères un groupe d'êtres humains en train de rire? Que dirait-il de ces grands bipèdes glabres qui émettent des sons paroxystiques par le trou pourvu de dents qui ornent leur visage?
Oh Seigneur! C'est la description la moins alléchante d'une bouche que j'ai entendue depuis longtemps. Criblé dedans.
Criblé, blablabla. Et vu de cette manière-là, le rire est vraiment pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de assez étrange.
C'est presque troublant.
C'est presque troublant.
C'est quoi ces sons-là qui émettent tous les mêmes en même temps?
Est-ce en ayant l'air de souffrir un petit peu.
Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est de la douleur? Un mélange des deux? On va en parler.
Ben justement, on en parle cette semaine, puis je me rends compte qu'à cause du thème qu'on aborde, à chaque fois qu'on rit depuis tantôt, j'ai comme une petite lumière qui s'allume dans ma tête. Là.
Ouais, on devient self-conscious.
Ouais, on devient
pour,
très conscient.
Du bon français.
Ouais, c'est un effet de l'émission qu'on a choisi de faire. Qu'on devient très conscient de ces choses-là du quotidien. Science! La science derrière le rire, je tombe là-dedans. Donc oui, le rire, en fait, c'est un réflexe qui vient du système limbique du cerveau. Et là, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un autour de cette table-là qui étudie en psycho puis qui aurait peut-être des idées pour clarifier ce qu'est le système limbique et à quoi il sert.
Raph, c'est toi?
Oui, oui. Le système limbique produit la limbe, un liquide hilarant qui nous parcourt le corps au complet. Okay.
Bon, Raph, tu ne l'as pas tout, là, je vais prendre le relais. Le système limbique, c'est ce qui crée les limbes. Donc, quand les enfants ne sont pas baptisés... Non, le système limbique, c'est comme... c'est une structure là, qui regroupe plusieurs... on pourrait dire organes là, du cerveau qui est surtout... on l'utilise souvent, le système limbique, pour dire que c'est le cerveau émotionnel de l'être humain. Là. Donc, il y a plusieurs petites choses comme l'hypothalamus, l'amygdale, le fornix qui en fait partie. Donc, et c'est très... C'est, on en a besoin, les mammifères surtout. Et,
pour contrôler le battement de notre cœur.
Oui, il y a beaucoup de trucs végétatifs, comme on appelle, mais aussi reliés aux émotions. Donc, le plaisir, tout ça, la peur et le plaisir. Ben, le rire, ça vient ça fait partie du lot. Là.
Donc, on comprend pourquoi c'est autant lié au rire. C'est pour ça qu'on désigne cette partie-là comme étant qui s'allume un petit peu quand on rit. C'est dans la même partie qui gère des automatismes, des émotions, tout ça. Donc, c'est tout lié. C'est entre autres pour ça que les bébés, ils savent rire avant de savoir parler. Un bébé qui rit, il peut rire très jeune. Là. Je n'ai pas l'âge exact sous la main. Là, je
mais on entend le rire du bébé en ce moment.
Oui,
j'entends le rire de bébé.
Dans
puis c'est vrai, on réalise que ce n'est pas une fonction cognitive d'ordre supérieur.
Non,
là.
C'est ça. C'est un réflexe.
C'est très facile à faire pour lui-même.
Puis aussi, ça explique pourquoi c'est tellement difficile d'arrêter de rire dans un contexte où c'est clairement pas approprié, comme quand on bosse à la réunion du matin, se renverse du café dessus, puis qu'on voit ses mamelons à travers de sa chemise.
C'est un fait vécu, ça?
Non, ça m'est venu naturellement. Ah, talent d'improvisateur.
Tu vois, moi, j'avais quelque chose d'un peu plus comme facile, ben, surtout qu'on parlait de bibliothèque, mais rire dans une bibliothèque, je trouve.
Ah, ben oui.
On vit qu'on n'a pas le droit de faire des sons. Il me semble le fou rire nous prend.
Le rire réprimé, il est tellement drôle.
Ouais, on a envie de rire en ce moment.
Oui, puis les fameux rires, ben, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais rire, mettons, dans des circonstances, des funérailles où on n'a pas le droit, on est comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais?
Tu
sens que t'as pas le droit de rire.
J'y arrive, tous ces trucs-là. C'est une sorte de langage universel qui transcende les cultures, pourra-t-on dire. T'sais, tu vois quelqu'un qui rit dans un autre pays, même s'il ne parle pas la même langue que toi ou elle, tu vas comprendre que c'est un rire. Donc, je vais parler un peu des sources du rire. Donc, il y aurait l'humour, tout d'abord, classique. On fait des jokes, on rit. Donc, c'est une source à laquelle on s'attend qui ferait rire. On pourrait même s'attendre à ce que ça soit la majorité de nos rires qui soient provoqués par une forme d'humour, mais... un fait intéressant, c'est que selon une étude de M. Provine qu'on a cité en intro, c'est moins de 20% des rires qui sont provoqués par des blagues. Et c'est même souvent la personne qui raconte la blague qui rit le plus. C'est quand même intéressant, ça.
Puis justement, dans le livre, parce que c'est moi qui l'ai emprunté, donc j'ai le copyright aujourd'hui, Robert Provine s'interroge sur les conversations qui précèdent le rire. Donc, qu'est-ce qui cause l'hilarité? C'est parfois des affirmations, des questions. Et lui et son équipe de chercheurs se sont rendus compte qu'effectivement, très peu des rires qu'ils ont observés étaient liés à des choses vraiment drôles, soit des blagues ou des vraies tentatives d'humour. Ils ont classé les différentes paroles qui précèdent le rire. Ils ont regroupé les plus drôles et les plus cocasses dans une catégorie. Donc, c'est pas des questions, c'est vraiment juste des phrases qui n'étaient pas supposées faire rire, qui ont fait rire, qui ont causé l'hilarité. Donc, il y en a une qui va comme suit. Ce pauvre homme est le portrait craché de son père. Ensuite, on a « Quand ils ont demandé à John, il a répondu qu'il voulait devenir un oiseau quand il serait plus grand.
Oh. »
Puis on a « Elle fait une thèse en danse folklorique horizontale. Et finalement, mon préféré, il a essayé de se moucher, mais il n'y est pas arrivé. Comme quoi, des phrases qui se veulent banales pour décrire des choses banales deviennent absolument cocasses quand on les dit tout haut.
C'est peut-être le petit John qui veut devenir un oiseau qui n'a pas réussi à se moucher. En tout cas. Mais oui, on parle des sources du rire, on parlait de l'humour. On parlait des phrases cocasses. Il y aurait le chatouillement, bien entendu, que tout le monde déteste et adore en même temps, qui déclenche carrément un réflexe de rire, qui est un mélange, je dirais, de peur et de joie, là, parce qu'il n'y a rien de plus étrangement stressant que de se faire chatouiller ou de se faire menacer de se faire chatouiller.
Est-ce que quelqu'un aime ça, se faire chatouiller?
Ça doit dépendre du contexte, j'imagine.
On dirait que c'est à la fois comme « Arrête, t'es vraiment dans ma bulle, mais... »
C'est drôle.
C'est comme drôle parce qu'on est intime, on se laisse faire, mais j'aime vraiment pas ça. Ouais. C'est très... Ouais, on dirait que c'est...
Il y a un aspect jeu, je pense. Il y a un aspect jeu là-dedans, quand même.
Ouais, c'est très drôle.
Le rire des autres aussi peut être la source de notre propre rire parce que c'est quelque chose de social, communicatif. Ça a été démontré, d'ailleurs, par le psychologue Leonard Schilbach. Je dirais que ça doit être comme ça que ça se prononce.
Bach.
Parce que Schilbach... de l'Université de Cologne en Allemagne, c'est pour ça que je le prononçais comme ça, que le rire d'une personne, ça provoque autour des autres personnes autour l'activation d'un neurone qui déclenche le rire, même si la personne rit pas. Fait que les neurones qui sont associés aux muscles qui sont utilisés pendant le rire vont s'allumer dans le cerveau des gens, mais ils vont peut-être pas nécessairement rire. C'est comme avoir conscience, c'est comme si ton cerveau se préparait à rire en réponse.
Ouais, ben plus tard, j'ai un petit quelque chose pour toi là-dessus. C'est un principe qui existe, on pourra en parler un petit peu.
J'ai hâte d'entendre ça. Une boîte à surprise. Donc, il y a aussi le stress et la fatigue qui peut provoquer des rires. Je suis sûr que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un rire nerveux qui permet de relâcher un peu la tension en libérant de la dopamine dans notre cerveau. Parce que c'est quelque chose qui arrive quand on rit. Il y a des hormones qui sont relâchées, dont de la dopamine qui nous détend, qui nous fait sentir beaucoup mieux. Par contre, si quelqu'un se met à rire sans raison apparente, ben là, notre cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires. Puis là, il vient complètement mêler et ça nous met mal à l'aise. Un peu comme comme si la personne était complètement classée comme dérangée. Donc, on entend ce rire-là sorti du contexte, on comprend pas. Puis on trouve ça complètement inquiétant. Puis un bon exemple de ça, c'est le Joker de Mark Hamill dans la série animée de Batman. Je vous fais entendre son rire. Donc, t'entends quelqu'un qui rit comme ça, pour aucune raison apparente, tu te poses des questions. Mm. Et je tiens à spécifier pour nos auditeurs que Mark Hamill, vous connaissez peut-être ce nom-là parce que c'est Luke Skywalker dans Star Wars. Donc, en plus de jouer un chevalier Jedi, il a aussi joué un maniaque qui se maquille puis qui rit d'une manière... Son rire est excellent là, pour le personnage. Là, c'est tellement impressionnant.
Et pour les plus visuels aussi qui ont vu le dernier film Joker, là, c'est Joaquin Phoenix qui le fait, mais on voit... Parce que moi, j'ai le visage là, de quelqu'un qui est à la fois comme triste et qui rit en même temps. C'est très troublant.
Ouais.
C'est un bon
Le rire est similaire, d'ailleurs, dans ce film-là. Un rire très haut, très maniaque, parti un peu sur une autre planète.
Puis lui, il essaie de s'arrêter de rire, puis il n'est pas capable.
Il n'est pas capable.
Une dimension encore plus troublante. Mais oui, effectivement, un rire, là, ça peut vouloir dire des trucs un peu plus
dans
intenses.
Dans les mauvaises circonstances, absolument. Ça peut être inquiétant. Ouais.
Absolument. Donc, ensuite, on est toujours dans les sources du rire. La consommation d'alcool et de drogue, ça peut rendre certaines choses comiques alors qu'elles ne le sont pas. Et de façon un petit peu plus sérieuse, parce que c'est quand même un problème, entre autres en France, le protoxyde d'azote ou le gaz hilarant. Donc, c'est la deuxième substance psychoactive la plus consommée en France par les jeunes de moins de 18 ans, et ce, après le cannabis. Donc, on est quasiment aussi consommé que le pot. Le problème avec ce gaz-là, c'est que ce qui provoque l'hilarité, c'est que tes cellules sont un peu genre... Je sais pas trop, je suis pas un biologiste, là, fait que je suis pas capable de l'expliquer exactement, mais ils sont troublés, ils sont désagrégés un peu par le gaz, leur travail est comme entravé, dérangé. Donc, c'est vraiment pas bon pour le cerveau de respirer ça. Puis, c'est comme une drogue qui est facile de l'accès. Puis qui est... Parce que ça sert à d'autres choses, le protoxyde d'azote.
Mm-hmm.
C'est comme des petites capsules de recharge, de toutes sortes de trucs qui marchent au gaz. Là. Puis, les gens, ils respirent ça pour trouver ça drôle.
J'avais jamais entendu parler de ça.
Ouais, c'est un problème.
C'est peut-être drôle sur le coup, mais la consommation, ouais, elle l'est moins.
C'est ça, puis à long terme, là, c'est pas, ça a des effets dommageables sur le cerveau. De manière, là, j'étais dans quelque chose de plus sérieux, de manière un peu moins sérieuse et plus cute, on pourra dire. Il y a d'autres animaux qui peuvent rire à part les humains. Donc, ou presque, là, on dit rire, c'est similaire au rire humain. Pour exprimer soit de la joie ou de la nervosité, donc on a les singes, donc on pense tout de suite aux singes. Les chiens. Les chiens ont une forme de rire. Quand ils se rencontrent, le allaitement qu'on connaît devient. Ont une forme d'allaitement pour signifier qu'ils sont amicaux entre eux.
Est-ce qu'ils ressembleraient. C'est du rire?
À cause des régions de cerveau qui s'allument, les scientifiques font le lien entre le rire humain et le rire d'un chien un peu. C'est comme. Ça a la même fonction pour eux que ça l'aurait pour nous à la base, c'est-à-dire la communication sociale d'émotions positives. Donc, cet aspect-là du rire est reproduit chez le chien.
Un peu d'anthropomorphisme, peut-être, ici. Oui, peut-être. On dirait que j'ai des doutes.
Ben, en tout cas, c'est à explorer. Vous pouvez explorer ça à la maison, mais apparemment... Que
faire des jokes à votre chien, voir s'il réagit.
Non, mais c'est ça. Le propre de l'humain, c'est tout ce raisonnement-là, mais l'espèce de rire incontrôlable, de naturel, social, il y aurait quelque chose là par rapport au... Puis même, il y aurait aussi les rats. Donc, je vais vous faire entendre le rire d'un rat. On va entendre un monsieur qui parle un petit peu, mais après ça, on entend le rire d'un rat.
So here's the sound a rat makes if you tickle its back. The sound has been converted to a lower frequency.
Oh.
Donc oui, c'était le son d'un rat qui couine et qui rit. Donc, on entend que le son... de manière très aiguë, peut ressembler à un humain qui rit avec les sons saccadés reviennent. L'idée est que... Puis là, le rat était chatouillé. C'est ça que l'homme décrivait. On chatouille les rats carrément. Là, on les flatte comme ça avec la main. Là, vous me voyez en studio. Là. Et les rats réagissent de manière positive. Puis même qu'après le chatouillement, les rats cherchent à se refaire chatouiller parce qu'ils trouvent ça vraiment le fun.
OK, fait qu'ils sont un peu différents de nous à cet égard-là.
Oui, oui. Mais c'est ça... Puis dans ce cas-là, les rats expriment un sentiment justement que je décrivais un peu comme pour les chiens. La manière de communiquer socialement, que c'est positif, c'est le fun, ce qui se passe, on joue, c'est ce son-là qui ressemble beaucoup à un rire, ce qu'on pourrait décrire comme un rire, mais chez le rat. Ce rire-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il sonnait aussi aigu. La fréquence est abaissée parce que c'est des ultrasons, on les entendrait pas normalement. Okay. Donc si tu fais ça avec ton rat à la maison, t'entends pas ce son-là, à moins d'avoir un micro spécialisé qui permet d'abaisser la fréquence. C'est pour ça que le son était un peu de mauvaise qualité aussi.
Quand on y pense, les rats sont des animaux tellement étudiés, vu que toutes les expériences se font sur les rats. On en sait sûrement beaucoup sur les rats qu'on pourrait découvrir ça. C'est chez d'autres formes d'animaux que
comme les chiens.
Comme les chiens, mais qui ne serait pas éthique de faire autant d'expériences. Donc peut-être que effectivement, il y a des fréquences qui s'assimilent, qu'on pourrait assimiler au rire là, pour d'autres animaux. Là. C'est assez fascinant, ça.
Puis même qu'il y avait les scientifiques qui ont fait cette étude-là, ont fait un parallèle entre les ondes cérébrales du rat qui est joyeux, qui se fait chatouiller, et les ondes cérébrales dans le cerveau d'un enfant qui rit. Donc, ce rapprochement-là a été fait. Après ça, prouvé, je ne sais pas à quel point c'est solide comme du béton. De retour à l'humain, je voulais vous parler un peu de Schadenfreude. C'est-à-dire...
les mots allemands ce soir?
Oui. Schadenfreude. Celui-là, je le prononce un peu mieux que l'autre.
Schadenfreude.
Je l'ai entendu pas mal. C'est-à-dire rire du malheur des autres. Donc, Schaden et Freud, ça signifie littéralement la joie du dommage. Mm. Et personnellement, quand j'ai exploré ce phénomène-là, je m'attendais à le voir classé dans la même catégorie que voir quelqu'un qui glisse sur une rampe d'escalier en voulant faire rire et qui tombe sur son derrière sans se faire mal, mais on trouve ça drôle parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il s'est pas fait mal. Mais non, pour que ça soit de l'authentique Schadenfreude, il faut que le malheur de la personne soit réel. Donc, il faudrait que dans ce cas-là, la personne se soit blessée vraiment. Donc, s'il n'y a pas de malheur, c'est pas vraiment du Schadenfreude, selon une école de pensée.
Non, juste pour m'assurer d'avoir compris, donc le Schadenfreude, ce serait d'éprouver de la joie lorsque quelqu'un d'autre, elle, éprouve du malheur.
Du malheur, carrément. Mais le malheur doit être réel, pas seulement... comment je pourrais dire, on peut pas avoir l'impression que la personne s'est faite mal, finalement c'est correct, trouver ça drôle, c'est pas du schadenfreude.
Mais j'imagine que, parce qu'il y a des compilations de gens qui se blessent en faisant toutes sortes de choses, oui. Puis j'imagine que certaines personnes écoutent ça parce que c'est cocasse, puis c'est surprenant de voir quelque chose qui est manqué, mais en même temps, tu pourrais écouter ça puis faire comme, ah ouais, ça a frappé fort, genre.
Ouais. Ça m'arrive, moi, des compilations de gens qui tu sais, des drôles de vidéos où des gens se font mal, puis on entend des rires en canne, mais parfois, je suis pas tout le temps d'accord avec les rires en canne. Je fais, mais ça, là, il s'est fait mal, là. Il est à l'hôpital pour ça. C'est moins drôle, là.
Justement, pour conclure ma partie avec le Schadenfreude, l'importance du malheur là-dedans, ben, j'avais un exemple pour l'exprimer. Mettons, un bon exemple, ça serait de voir quelqu'un qu'on considère comme une mauvaise personne qui a hérité d'une grande somme d'argent. Mmh. Puis qu'après ça, fait un mauvais investissement avec cette somme d'argent-là et la perd.
Il apprendra, c'est une mauvaise personne.
Exact. Donc, on a ce sentiment-là. On peut même rire de cette personne-là parce que c'est une mauvaise personne. Il a essayé de frauder, par exemple. Il s'est planté, puis là, il est derrière les barreaux, mettons. Puis là, on est comme, haha, t'avais juste à pas faire ça. Ben ça, c'est du Schadenfreude.
Est-ce que le côté joie de Schadenfreude est comme nécessairement exprimé par le rire?
Pas nécessairement, c'est ça, c'est assez ouvert. Ça peut être la joie, tout simplement, ou ça peut être du rire aussi. Donc, j'imagine que Nelson, dans Les Simpsons, qui faisait... ça devait être quelque chose comme un peu du Schadenfreude.
C'est une belle exemple.
Je pense qu'il y a quand même une distinction à en faire entre notre envie et besoin de voir la justice se faire pour les gens qu'on considère comme mauvais, puis de voir quelqu'un qui lui arrive quelque chose de mal, puis que c'est pas une mauvaise personne, mais que ça nous fait du bien, qu'on aime ça quand même.
Ce que je décrivais, c'est une forme de Schadenfreude, parce qu'il y a des gens qui peuvent ressentir cette émotion-là avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Là. Ils voient quelqu'un qui tombe en vélo, qui se fait mal, il y a des gens qui vont trouver ça drôle pour vrai. Là. Mm. Même s'ils savent que la personne s'est faite mal, simplement parce qu'il y a une déconnexion.
Ils peuvent avoir une joie de dire... Ah, ça, je reconnais que c'est dérangeant. Je suis tellement content que ce soit pas moi. C'est J'en éprouve une forme de joie. Là.
C'est ça. Il y a cet aspect-là aussi. Où il y a tout simplement quelqu'un qui se casse la main sur un mur en essayant de vous frapper au visage. Vous êtes comme, haha, niaiseux. Tu sais, c'est quand même...
Ça, c'est du Schadenfreude?
Oui, ça serait une forme de Schadenfreude. Moi, en tout cas, ça me ferait du Schadenfreude. Si quelqu'un essaie de me frapper au visage et se casse la main... Satisfaisant quand même.
Les Allemands, avec ces mots-là, qu'on n'a pas d'équivalent, je trouve ça le fun. Et peut-être qu'un jour, on faudrait avoir des Allemands en studio qui nous expliqueraient qu'est-ce que la Schadenfreude. Sûrement qu'ils ont une compréhension plus approfondie que nous.
Mm-hmm, mm-hmm. Donc, je me suis écarté justement un peu avec ce sujet-là qui était plus. Il était connecté au rire, mais pas du rire lui-même. Puis là, on va retomber dans le rire, hein, Raph? Je pense que tu avais quelque chose à préparer avec le livre que tu as lu.
Oui, absolument. Dans le livre que j'ai lu, j'en ai appris beaucoup sur l'histoire de notre compréhension du rire, notre manière de vraiment l'analyser puis de se l'expliquer. Et on trouve des réflexions et des analyses sur le rire aussitôt que pendant l'Antiquité, là, dans les textes philosophiques qui nous parviennent des grands penseurs de cette époque-là. Platon, par exemple, qui était... comment j'ai vu ça? Il y a un mot pour expliquer un génie universel.
Il était tordant.
Polymathe.
Platon était tordant. Il faisait des jokes.
Exact.
C'est un polymathe.
Un polymathe.
Mm-hmm. Ah ouais. On ne connaissait pas ce mot-là.
Et selon Platon, le rire, c'est quelque chose de très... c'était pas toujours propre, c'était pas une belle chose que le rire. Il disait ce qui rend une personne risible, donc ce qui fait qu'on rit d'une personne, ce sont ses vices. C'est parce que les gens qui provoquent le rire et la moquerie, ils démontrent un manque de connaissance d'eux-mêmes. Donc ils se voient plus beaux, plus riches, intelligents qu'ils sont réellement. Donc c'est pour ça qu'ils sont l'objet de rire. Et Platon considérait le rire comme quelque chose qui était problématique et vulgaire et qui possédait un pouvoir potentiellement subversif, ce qui était une menace à son état idéal.
Il n'aurait pas aimé les humoristes, lui.
Oui, probablement qu'il aurait eu de la misère avec les humoristes, en effet. Aristote, un petit peu après, lui, trouvait que le rire, c'était quelque chose qui était malicieux et que l'art du mot d'esprit, le mot d'esprit qui est la réplique fine et subtile, pas toujours bien intentionnée, considérait que c'était une forme d'insolence raffinée. Donc, ça aussi, c'était un vice.
Ah, je me sens tellement pointé du doigt, une forme d'insolence raffinée. Mes proches me diraient, oui, tu es insolent. Oh mon Dieu, that one hits.
Aristote avait compris aussi l'importance du caractère inattendu dans le déclenchement du rire. Puis, fait intéressant, Aristote, ben, on est dans les années fin 300, et l'idée que l'inattendu, c'est important dans le rire, ben, ça a été seulement approfondi 2000 ans après avec Kant et Schopenhauer, par exemple.
Mon Dieu.
d'autres philosophes reconnus pour leur humour fantastique.
Kant, avec son éthique, vous devez...
Mais comme quoi, le rire n'a pas toujours suscité, je vais dire suscité autant d'intérêt à travers toutes les époques. Et bon, les théories sur le rire à cette époque-là s'entendent sur le fait que rire, c'est un acte auquel on doit s'adonner avec modération. Donc, il n'est pas question de partir à gorge déployée pour toutes les raisons puis tout le temps. Il faut faire ça avec modération. Puis la source de l'hilarité, surtout, ça doit être de bon goût. Et malgré ça, on sait que le rire, ça a une longue histoire filiale avec la moquerie et la dévalorisation des différences et des autres, comme tu l'as dit, Émile, avec le Schadenfreude.
Schadenfreude.
Et comme quoi, le bon goût et ce qui est considéré comme convenable, ça a manifestement beaucoup évolué à travers les époques. Comme exemple de sources d'hilarité qui ont un petit peu du temps derrière eux, qui sont un peu datés. On peut faire référence notamment à la difformité physique des gens, à la torture, aux exécutions même, qui ont longtemps été des événements publics à l'ambiance des carnavals.
Ben oui, c'était quand même assez récent, là, toutes les déformations physiques qu'on voyait comme étant les gens qui étaient des monstres là, dans les genres de cirque.
Oui,
là,
exact.
Donc... C'était des bêtes de foire.
Exactement.
Là,
et on peut faire une petite référence au nom de notre émission, Cabinet des banalités, qui s'inspire du Cabinet des curiosités, qui était quelque chose qu'on retrouvait en Europe, surtout en Europe, à une certaine époque, où on commençait à s'ouvrir un peu plus sur le monde et on ramenait des choses en Europe qu'on avait trouvées sur d'autres continents, dans d'autres pays, et qu'on trouvait complètement curieux. Des choses qui nous paraissaient spectaculaires et même horribles parfois. Donc, des fois, c'était aussi simple que quelqu'un d'une ethnie différente qu'on n'avait jamais vue. Donc,
mon Dieu.
C'est un spectacle. Mais aujourd'hui, se moquer d'autrui, oui, c'est toujours absolument d'actualité. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Mais tout n'est pas acceptable, peut-être autant qu'avant. La performance, qui est l'humour, c'est pas toujours assez pour justifier les paroles, les actions qui visent à faire rire. Puis on le voit très bien quand certains humoristes se mettent les pieds dans les plats et confondent liberté d'expression et discrimination.
Oui, c'est vrai que ça arrive. Et on va pouvoir poursuivre sur le sujet de l'acceptabilité sociale du rire et tout ce qui en découle après une petite pause. Donc, on se retrouve après tout ça.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
De la réveille à Saint-Charles, boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Cash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Je me suis présenté tout nu devant un infirmier. Moyennant dit ça qu'il m'a dit, moi je peux vous aider. Je me voyais déjà retournant chez moi. Mais quand ils m'ont dit que j'étais bon pour 18 mois, à ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. d'amour. Le rire du sergent, la fleur du régiment, avait un cœur de troubadour. Depuis ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un sergent pour chanter avec moi. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon.
Donc, on a pu entendre une porte qui s'ouvrait. Non, c'était un de nos micros qui était accroché malheureusement, mais c'est pas plus grave.
Donc, si on prend ça mot pour mot, on vient d'entendre une porte qui s'ouvrait, ça a déclenché un rire chez nous.
Exactement.
C'est, c'est pas mal simple.
Comment il s'appelait? Robert Provine.
Provine.
Ouais, effectivement.
Un Américain.
Hey, ça met tellement bien la table à ce que j'allais dire. J'allais dire que la moquerie, c'était pas le seul moteur de l'hilarité. Parfois, ça peut être complètement absurde.
Comme à ce moment.
Dénué de sens, comme c'était en ce moment. Émile l'a mentionné, là, ça peut être toutes sortes de choses. Mais moi, je me suis dit, crève, c'est intéressant l'humour absurde, comment ça que ça fonctionne? Et comme dans la majorité de ce qui nous fait rire aujourd'hui, l'humour absurde, ça possède une part importante de surprise. Donc, l'effet surprenant d'une blague, bien, souvent, c'est ça qui nous a.
On a été surpris par ton langage.
Ouais, dès lors, on a ri. Et je veux juste mentionner que on parlait tout à l'heure que on devenait plus. On remarquait qu'on riait. Là.
On était plus conscient
de nous. Oui, actuellement, à chaque fois qu'on rit, là, je suis tout en train de penser à ça. C'est tellement spécial.
Vraiment. Puis dans l'humour absurde, ce qui est surprenant, c'est le dérèglement de la logique et le principe de causalité qui va être généralement brisé. Et on retrouve beaucoup ça dans l'humour yiddish, notamment.
Oh.
Je vous apprends peut-être quelque chose. Et, bien sûr, je vous ai sorti une blague juive pour qu'on puisse la lire aujourd'hui ensemble. Donc,
c'est ça, yiddish, c'est ça? Pardonne-moi,
c'est la langue.
Ah, OK, des juifs.
Exact. Fait que je vous lis la prémisse. François, tu vas être personne numéro 1. Émile, tu vas être personne numéro 2. Ça va comme suit. En Allemagne, au début du nazisme, un juif rencontre dans un café un autre juif, un ami qui lit le journal antisémite Der Stürmer.
Mais comment tu lis cette horreur?
Eh bien, je la lis parce que c'est excellent. Quand je lis la presse juive, il n'y a que des mauvaises nouvelles, des persécutions, de l'antisémitisme partout, alors que dans ce journal, il est écrit que nous sommes les maîtres du monde et nous contrôlons tout. C'est quand même plus réconfortant.
Wow. On voit ici que c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire...
C'est sarcastique.
C'est sarcastique, il y a beaucoup d'ironie, puis le lien de causalité est brisé ici, là.
Ben, oui, c'est de rire de ce genre de sujet-là, de persécution, puis tout. C'est ça qui est absurde là, là-dedans. Là.
Exactement.
Ah, le contexte est un des moins risibles de l'histoire de l'humanité.
Oui,
et pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose de drôle.
Exact. Donc, merci les garçons. Hein? Et finalement, comme d'habitude, vous savez ça de moi, j'aime beaucoup dire que tout est normé, que tout est encadré, structuré socialement.
Anthropologie.
Et c'est le cas pour la majorité de ce qui constitue notre univers, évidemment. Et le rire rentre dans cette catégorie-là. Le rire répond à des règles acoustiques et physiologiques. Peut-être que je vous apprends quelque chose. C'est pas si anodin que ça. Et ça fait en sorte qu'on rit pas de n'importe quelle manière. Le rire, ça a une signature acoustique distinctive. C'est une série de, vous l'avez dit, là, c'est une série de syllabes, de grains sonores qui doit être cohésive en elle-même. Donc, chaque note de rire, c'est une syllabe. Donc, on peut penser au ha, ho, hi et même he. Il y a des manières de rire pour tout le monde.
Et les combiner, ça doit être. Ça marcherait pas. Hein? C'est souvent. C'est
là que je m'en vais. Il y a beaucoup de variantes qui sont possibles. Mais, comme tu le dis, François, il y a certaines variations qui n'existent pas de manière spontanée à cause de contraintes biologiques, entre autres. Essayez, par exemple, au lieu de « ha, ha, ha » ou « ha, ha, ho, ho », faire « ho, ha, ho, ha » ou « hi, ha, hi, ha ».
Ça n'a pas l'air d'un rire.
Ouais. Non, ça n'a pas l'air d'un rire.
Ça a l'air plus un espèce de chant primitif.
Exact. Donc, il y a des combinaisons qui existent, il y en a qui n'existent pas. Et il y a aussi une question d'intervalle à respecter entre les syllabes du rire. Tu peux pas avoir des trous entre tes différentes syllabes de rire qui sont trop courts ou trop longs, parce que là, on risque de tomber dans le rire ironique. Et on n'est plus dans le...
Oui, comme dans le « ha, ha, ha », qui est très long. «
Ha,
là.
Ha, ha ».
Mais c'est drôle, toutes ces règles-là que tu amènes, parce qu'en plus, c'est des règles qu'on pourrait dire totalement implicites. Il n'y a personne qui va dire pour ce rire-là, il va falloir que je, pas que j'oublie de répondre à la règle, parce que c'est des règles. Des règles humaines de comment on est câblé pour rire d'une façon bien structurée et réglée, comme tu l'as dit.
On est vraiment bon aussi pour détecter les faux rires et les vrais rires. Là.
Comme là, c'était un vrai là, que tu viens de faire. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Puis moi, de mon côté, je m'interrogeais par rapport au rire, surtout, c'est sa fonction. La fonction du rire, parce que moi, j'aime ça m'interroger sur certains comportements qui, on pourrait dire, qui caractérisent le genre humain, mais dont la raison d'être, là, d'un point de vue, on pourrait dire, biologique ou évolutionnaire, c'est pas totalement clair. Comme on a déjà parlé avec la biologie du rire, mais. Pourquoi? Tu sais, pourquoi? Il y a tout le temps le pourquoi qu'on peut aller tout le temps un peu plus loin, mais savoir pourquoi nos comportements, il y en a qui sont plus évidents à comprendre pourquoi on ferait quelque chose, puis il y en a qui sont moins évidents. Comme mettons, je donne un autre exemple, mais pourquoi la beauté existe-t-elle? Pourquoi on a l'impression que les choses sont belles? Tu sais, d'un point de vue, la fonction biologique ou évolutionnaire, c'est quelque chose que moi qui m'a toujours fasciné. C'est pas évident de se dire pourquoi on devrait avoir le sentiment de qu'est-ce qui est beau. Peut-être pour un autre individu, on pourrait dire avec quelque chose de une sublimation de quelque chose de sexuel, mais pour la beauté, mettons, d'objets, quoi que ce soit, mais c'est toujours fascinant pourquoi on trouvait les choses belles, à quoi que ça a, quelle fonction ça aurait. Et le rire, je trouve, ça fait un peu partie de cette catégorie-là que si on s'arrête purement à la fonction, on dirait que c'est, dans ma tête, c'est pas clair pourquoi est-ce qu'on rit. T'sais, le premier hominidé, peut-être, le premier primate qui rit, tu sais, c'est pourquoi qu'il rit, puis c'est qu'est-ce qui a fait que ça a pogné. C'est comme si c'était une mode, mais tu sais, ça devait quand même être quelque chose de particulier. Le premier rire, ça s'est sûrement fait d'une façon, ça s'est développé une forme de joie qui a été détournée, mais comment c'est devenu un comportement distinct des autres, puis comment ça s'est développé à travers les primates?
Ça me porte à réfléchir au fait d'imaginer que le rire n'existe pas. Et quand on a un excès de joie soudaine, on n'a pas de manière de le sortir. Ou on en a une autre. Gesticuler dans tous les sens, ou sauter sur place, ou...
Utiliser son doigt pour faire l'espèce de danse du doigt avec l'index, là, comme ça. Là.
Oh oui!
Donc, le spectateur, il adore à ce moment la manière que tu bouges ton doigt.
À nos auditeurs, je peux vous dire, je fais une cascade de phalanges incroyable en ce moment.
C'est bien illustré ce que je voulais dire, que cette bouffée de joie-là, on dirait qu'il faut qu'elle sorte, puis qu'elle soit exprimée de manière physique.
Mais c'est vraiment intéressant. Puis, on en rit, c'est le fun, c'est ça. On est là pour ça aussi. Mais le rire, c'est un comportement aussi qui est carrément exercé chaque jour. Puis on le voit qu'on rit beaucoup juste à travers l'émission. On rit une quantité assez phénoménale. Je ne me suis pas noté combien de fois on a ri, mais on le fait énormément. Puis pour ça, puis quand on essaie de se dire pourquoi on rit, bien, on pourrait répondre évidemment bien, c'est plaisant de rire, c'est bon pour la santé. Là, on sait qu'il y a déjà des raisons suffisantes pour être convaincu que c'est bon de rire, quoique on n'a pas vraiment, ça s'applique pas, là, on n'a pas besoin d'être convaincu pour rire, là, c'est pas comme, hey, tu devrais vraiment te mettre à rire, c'est cool.
C'est pas quelque chose à laquelle on pense.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le rire, c'est plaisant. Mais pourquoi on le sent comme étant quelque chose de bon? Pourquoi qu'on vit une forme de gratification émotionnelle lors du rire? Tu sais, pourquoi qu'on, c'est cette combinaison de gestes moteurs, évoqués plus haut et considérés comme une bonne chose par notre système nerveux? Tu sais, pourquoi? Tu sais, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Désolé, François. On est vraiment crétins.
On a une feuille commune pour suivre le fil de ce qui se passe dans l'émission. Puis François écrit « Pourquoi est bon?
» Ça résume l'idée. Pourquoi des propositions puis des mots de liaison qui servent à rien?
Exact. Il y a un tiret entre « et » puis « bon ».
Toi, gagner tant. Et bon.
Pourquoi est bon?
Mais on rit vraiment à tous les jours. Et ça dépend de notre humeur, bien sûr. Mais généralement, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va nous faire rire dans la journée. Et comme l'a souligné Émile, c'est automatique. On se dit pas « Ah, c'est vrai, il faudrait que je rie aujourd'hui, je ne l'ai pas fait encore. » Tout se fait de façon... On ne réalise pas qu'on le fait tout le temps. Puis évidemment, on peut le faire, de forcer la situation, forcer le rire, d'embarquer dans un contexte qui favorise le rire, comme un spectacle d'humour, regarder une émission télévisée qui est comique, des vidéos absurdes sur Internet. Mais malgré ces moments-là où on cherche le rire... T'sais, le rire, il va venir nous chercher d'une façon ou d'une autre.
Oui, le rire, il nous contrôle la situation, en fait.
C'est ça, on peut le forcer, mais il est là de toute façon, qu'on le veuille ou non. Puis c'est lui, étant donné qu'il est comme automatique, il a un pouvoir sur nous. Là. On peut essayer de le chercher, mais il va nous chercher avant. Et il va se passer quelque chose de... Quand il va se passer quelque chose de drôle dans notre journée, on va citer quelque chose qui va créer le rire. C'est comme si on va déterrer. J'ai l'impression qu'on remarque que les choses sont drôles. C'est souvent ça. C'est pas nécessairement comme quelqu'un qui, dans les situations forcées d'humour, qui nous dit « Voici ce que je fais, mon numéro est drôle. » Souvent, j'ai l'impression que c'est la perspective qu'on a. C'est de trouver un angle qui nous fait révéler le caractère comique d'une situation.
Ah! C'est pour ça que les mauvais films qui sont pas internationalement drôles peuvent devenir drôles, entre autres.
Ben c'est, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Là, j'y vois, c'est totalement des hypothèses, mais ouais. Souvent, j'ai l'impression que le rire, c'est souvent une perspective. On dirait qu'on voit le drôle. Il y a toute une façon d'aller le chercher, le rire de la situation. Pas tout le temps, mais c'est souvent plus un regard que des blagues en tant que telles qui répondent à on pourrait dire, des codes.
Est-ce que c'est pour ça que les petits livrets de blagues, c'est jamais drôle?
Jamais drôle.
C'est jamais drôle.
Ceux qui ont des petits livrets de blagues à la maison, sacrez ça dans le feu tout de suite.
Au mieux, la blague aurait au moins besoin d'être performée.
C'est sûrement ça l'intention, de pouvoir retenir ces jokes-là puis les compter.
Oui, c'est ça. Je pense que le rire a comme un grand aspect vivant. Il faut que ça se fasse comme dans l'instant.
Et surtout avec d'autres personnes, parce que là, moi, mon hypothèse, c'est que le rire, sa fonction primaire, c'est social. Parce que même seul, je ne sais pas pour vous, mais moi, rire seul, je sais, est-ce que vous êtes capable de rire seul, premièrement?
Oui, moi, je suis capable. Hein? Est-ce que je te raconte la dernière fois que j'ai ri tout seul?
Oui, vas-y.
Moi, je connais l'histoire.
J'ai un petit chat à la maison. Puis il y a une patte qui craque un petit peu, là, il claque. Fait que quand il marche, je l'entends, j'entends sa patte qui craque. Puis j'étais dans la cuisine, je me faisais à déjeuner, j'attendais qu'il vienne, parce qu'il vient toujours près de moi quand je me fais à déjeuner. Puis là, je l'attendais, il venait pas. Puis là, tout d'un coup, je l'entends qui arrive dans le couloir, et là, je me mets à chanter « J'entends craquer! » Et j'ai ri tout beau, assez fort.
Ah, tu dis pas seul, j'étais avec un chat.
C'est vrai.
Mais généralement parlant, je sais pas pour vous, mais moi, je suis capable très facilement seul de trouver les choses drôles. Mais le rire, au niveau moteur, seul, ça vient
c'est
pas.
C'est beaucoup plus difficile, ouais.
C'est comme si le rire devenait quelque chose de très cérébral. Je le vis seul, tu sais, c'est bon, c'est drôle. Je le réalise dans ma tête, tout seul. Mais je ris pas à gorge déployée, je m'exclame pas quand je suis seul. T'sais, on dirait que les gestes moteurs viennent plus avec les gens. Et on pourrait dire que une façon de regarder comment... peut-être que c'est quelque chose de plus social, là, le fait de rire, c'est que au contraire, quand on est avec beaucoup de gens... Par exemple, dans un contexte d'un spectacle d'humour, je ne sais pas pour vous, mais tout d'un coup, on dirait que les gestes moteurs du rire sont plus faciles. Tout d'un coup, on a plus le goût de rire, là, de rire à gorge déployée, de s'esclaffer, mais Même si des choses parfois sont pas drôles, tu sais, c'est ça, moi ça m'arrive dans les spectacles d'humour, j'ai ri une blague puis après quelques secondes je fais me semble c'est pas si drôle que ça, mais j'ai ri de façon moteur malgré tout.
Ouais.
Mais comme
il y a rien de sympathie, c'est ça, c'est tu sais même quand tu veux encourager quelqu'un qui mettons que tu vas voir quelqu'un que tu connais qui fait un show d'humour, sa joke est pas nécessairement si drôle que ça, mais parce que tu connais
moi,
la personne.
Ça m'arrive souvent d'assister à des shows d'humour de mes amis, puis c'est pas si drôle que ça, mais oui. J'ai ri pareil.
C'est ça,
j'espère qu'ils nous écoutent.
Ah, non, on nommera personne, Patrick Couture. On n'a nommé personne. C'est une blague, Patrick, on t'aime, t'es bon.
À mon avis, il doit avoir comme l'attente aussi que toi-même, tu vas rire, que la salle va rire. Donc, aussi un effet d'entraînement. Mmh. Puis aussi le rire de sympathie, comme vous l'avez dit. C'est comme tout est rassemblé pour que tu ris. Fait que ton corps, il rit.
Oui, on dirait que c'est ton rôle. Soir, t'es le gars qui rit, là, ben fais ça.
C'est ça.
Mais j'ai l'impression que le fait qu'on soit regroupé avec des gens, puis ça vient un peu souligner l'aspect social, mais ça donne, on dirait, cette envie-là d'autant plus de rire, parce que d'autres personnes qui le font, puis on rit avec les autres, on dirait que ça, le rire est contagieux. Là. Puis,
quand on rit pas, est-ce qu'on est juste déçu parce que j'ai payé, mettons, 30$, l'humoriste, c'était pas drôle, ou est-ce qu'on est aussi pas déçu que le rôle n'ait pas été rempli des deux côtés, de l'humoriste et de la personne qui rit, de la salle qui est supposée être une grande source de rire?
C'est pas la faute à tout le monde. C'est pas la faute à une seule personne. Ça peut des fois être le. Voyons,
ouais.
C'est très holistique comme manière de voir la chose. Il y a comme une espèce de contrat entre toutes les parties qui sont là, qui est comme pas satisfait. Tout le monde est un peu déçu.
Mais vous me connaissez, hein? Moi, j'aime ça de parler de toutes les règles invisibles qui régissent toutes les situations. Puis je pense que dans une salle de spectacle, pendant un show d'humour, ben on est soumis à plein, justement, de règles comme ça qui encadrent le fait que la soirée, il faut qu'elle aille le mieux possible. Il faut que tu sois drôle, il faut qu'on rit, puis sinon, ben il y a quelque chose qui est brisé, tu sais. C'est une mauvaise soirée pour tout le monde.
Puis on pourrait dire qu'il y a même des règles anatomiques. Puis là, j'en reviens ce que tu parlais tout à l'heure, Émile, là, mais qu'il y a des endroits du cerveau qui s'illuminent quand on regarde l'autre rire. Ben, en fait, c'est pas uniquement pour le rire, mais c'est une découverte des neurosciences des dernières années quand même assez importante, mais ce qu'on appelle les neurones miroirs. Mais c'est des fameuses neurones qui vont, on pourrait dire, s'activer malgré que tu ne fais pas l'action directement, mais vont s'activer quand tu vas la voir, ça. Donc, je suis allé chercher la définition de Wikipédia, juste pour ne pas me mettre les pieds dans les plats, là, mais c'est une catégorie de neurones du cerveau qui présente une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu, en particulier de son espèce, exécuter la même action ou même lorsqu'il imagine une telle action.
Mon Dieu, ça sent bien far-fetch, là, et quand on imagine une autre personne entraînerait qui nous ferait cet effet-là.
Mais, puis ça a des. C'est vraiment une découverte en termes de neurosciences qui a tellement d'implications, mais ça fait en sorte que quand tu ris, ben, il peut y avoir des neurones dites miroirs qui vont s'activer par, on pourrait dire, imitation.
Mimétisme.
Comme, mimétisme, oui, effectivement.
Je sais pas si c'est un bon exemple de ça, mais moi, par exemple, j'aime ça des fois créer des petites mises en scène ou des petites blagues qui vont être faits sur mesure pour quelqu'un que je sais que ça va les faire rire. Puis des imaginer rire, ben ça me fait rire avant que ça se passe.
Mais oui, c'est ça. T'imagines déjà, t'anticipes la réaction, puis on dirait que ton cerveau, l'anticipation ou la simulation qu'il crée, ben ton système émotionnel il va quand même être activé d'une façon ou d'une autre, malgré que ce soit vrai ou pas. Plus la réalité est réelle, plus que ça va te faire rire.
Exact.
Mais sinon, la simulation commence déjà à te faire rire
un
peu. Exact.
Donc, t'as pas besoin d'être dans une vraie situation. Ça peut être, tu sais, complètement dans l'aménager, mais la simulation va être drôle.
Oui, mais en tout cas...
On est tous dans une simulation.
Mais le phénomène des neurones miroirs, c'est assez intéressant. Mais ça montre aussi à quel point certaines fonctions sociales sont carrément encodées dans notre cerveau, dans notre anatomie, parce que, tu sais, l'empathie ou le rire, partager les choses, on s'active en même temps que les autres. Donc, c'est vraiment dans l'activité de notre organisme que c'est créé. Et c'est sûr, j'ai pas d'études d'habitude à l'appui de mon hypothèse, mais vraisemblablement, le rire, on dirait qu'il sert la sociabilité entre individus, ça sert de partager les connexions, et ça aide la relation, ça nous fait partager un moment de plaisir qui aide au renforcement du groupe. Et quelque chose qui pourrait, des quelques petites études de cas là, qui pourraient peut-être rajouter à mon postulat, mais on entend souvent ça. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts humoristiques et c'est même un cliché, mais les humoristes vont dire qu'ils apprennent à être drôles. On sait que le rire est dans tous les êtres humains, mais c'est comme il y a un renforcement positif. Donc, on va vraiment dans l'apprentissage, dans la culture, d'apprendre à être drôle parce qu'on tire certains bénéfices sociaux et émotionnels par le fait même. C'était imbriqué. Mais ils vont dire souvent, moi, je me faisais intimider, mettons, physiquement, mais là, je riais de la personne qui m'intimidait. Puis tout d'un coup, c'était les gens riaient d'elle avec moi. Puis là, c'est sûr, c'est un exemple plutôt tannant. C'est un peu sombre, ouais. Mais c'est un mécanisme de défense ici. Si on entend
combattre
souvent
le feu par les jokes.
Mais c'est ça. Mais puis il y en a qui justement que c'est leur façon de se défendre, c'est faire. Si physiquement c'est impossible, ben psychologiquement le rire peut permettre ça. Puis il y en a qui vont apprendre ça. Puis parfois on dirait que c'est pas nécessairement pour se défendre, mais plutôt pour on pourrait dire attaquer l'espace social, dire salut tout le monde, considérez-moi car je suis drôle. Tu sais, j'arrive, on se parle, puis moi j'arrive, je fais une blague. Et là, ça peut quasiment être un mécanisme de défense parce que certaines personnes ne sauraient pas quoi dire. C'était pas de faire des jokes dans un contexte social. Puis moi vous ne me voyez pas en studio, là, les auditeurs, mais je lève la main. Mais moi, je me plais à dire que dans la plupart des rencontres sociales, que généralement, j'arrive, je fais 2-3 blagues, pas pire. Après, je parle plus ben, puis je m'en vais de la soirée en me disant « Ah, je m'en suis bien tiré. » Tu sais, j'ai l'impression que c'était efficient. C'est comme les fois que j'y ai parlé, c'était drôle, les gens étaient contents. Me semble social. Je m'en suis bien tiré.
C'est un bon souvenir.
Ouais, ouais, c'est ça. Fait que moi, je vois vraiment ça comme. Je me vois ça vraiment comme étant très efficient. T'sais, le nombre de mots par rapport à gratification sociale est très bon, selon moi. Mais il y a beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, c'est ça aussi. On ne sait pas quoi dire, on fait une blague. Socialement, les gens aiment ça rire. Donc, on imagine qu'ils aiment ça, les gens drôles, tu sais. Puis. C'est sûr que c'est pas suffisant. Il faut être une bonne personne aussi. Là. On peut aimer les gens qui nous font rire, mais c'est le fun qu'ils soient pas juste ça. Là. Mais c'est, aussi, je sais pas pour vous, là, je vous en parle, mais je vous pose la question, mais quand quelqu'un nous fait rire, j'ai pas l'impression que c'est uniquement comme le fait qu'on aime que cette personne-là est capable de nous faire rire, mais des fois, j'ai l'impression qu'on voit ça comme une forme de petite prouesse intellectuelle ou sociale, mais il y a comme un charme. La personne qui fait rire démontre une forme de charisme. Du moins, en Occident, j'ai cette impression-là. Oui. Quelqu'un qui est drôle, c'est souvent considéré comme les qualités. Là. Ah, il est intelligent, il est drôle, mettons.
Est-ce que
drôle,
tu peux rire à ce que quelqu'un dit puis te dire quand même « Hey, le maudit, pas bon. » Genre, je pense pas. T'es comme... T'es charmé. Même si tu veux pas, il y a une petite partie de toi qui est comme « Ah! Oh, j'ai été charmé. »
Ben oui.
Puis t'as comme pas de contrôle là-dessus parce que ça te prend par surprise, ça te prend par spontanéité. Fait que t'as pas le choix d'être un petit peu charmé.
Le mot « charmé » est bon, je trouve, dans ce contexte-là. Le rire vient comme t'aller te prendre par les émotions, par les automatismes émotionnels.
En tout cas, fait divers sur comment ça s'appelle l'application de dating, my god,
monsieur. Tinder,
exactement. Le fameux faut que tu me fasses rire. Tu sais, faut que je ris. Parce que première date, c'est stressant. Si tu me fais rire, ben là, il va s'installer comme un climat de détente. Puis si tu vas me charmer, si tu me fais rire, tu sais, je vais être charmé. Je dis pas que c'est 100% efficace, là. Ce n'est pas la seule chose, bien entendu.
Ça nuit
mais
pas.
C'est tellement efficace.
Donc, socialement et relationnellement parlant, donc ça conclut ma petite partie, mais le rire semble avoir une fonction des plus importantes du comportement bizarre et que fonctionnellement, il faut se poser des questions du genre humain.
Mais deux choses par rapport à tout ça. Premièrement, j'ai l'impression que justement, être capable de faire rire, pas de nous, mais avec ce qu'on fait ou qu'on dit, ça sous-entend toute une espèce de construction d'intelligence puis de charisme, justement, que automatiquement, on a le message, les autres humains qui assistent à ça, on a le message « Ah, OK, cette personne-là est comme digne de confiance parce qu'elle est capable d'être à la fois vive d'esprit et est capable d'être à l'aise et en confiance elle-même. Ouais. Donc, elle a comme rien à se reprocher. Là. C'est le message qu'on s'envoie.
Et elle veut faire rire les autres. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui peut être bonne pour nous.
Ouais,
ah, elle veut nous faire rire. Elle est bienveillante. Ouais.
Et je rajouterais à ça, si c'est quelqu'un qui fait de l'autodérision même, tu te dis, ah, il y a une connaissance de lui-même.
Oui, une humilité aussi.
Il y a une humilité, puis il est conscient de ses faiblesses, peut-être de ses défauts. Il s'en sert pour faire rire. Donc, ah, tu sais, c'est quelqu'un de...
C'est un bon réflexe d'humour. Ben, c'est un réflexe commun d'humour, ça, d'ailleurs. Les humoristes qui, mettons, en deux jokes qui marchent moins, ils font « Ah, ça, c'était pas bon! » Puis là, ça fait rire les gens.
Ça fait rire de, par sympathie, tu disais aussi.
Le fameux rire par sympathie.
Les gens sont conscients de leurs propres défauts. Mm. Ça nous conforte, on dirait. Sinon, on se sent obligé de rire d'eux.
Mais juste avant qu'on conclue, on parlait des gens qui nous font rire. Que, tu disais une qualité qui rachète un peu, qui fait « Ah, le maudit, mais il est drôle, par exemple.
»
Je pensais à Ronald Reagan. Je suis vraiment pas d'accord. Non, c'est vrai. Je suis vraiment pas d'accord du tout avec les positions politiques qu'il y avait. Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il était drôle, le maudit. Il était vraiment drôle. Il était dans une conférence de presse, puis il disait, bon, là, tu sais, c'était lui le doyen là, du Congrès. Il devait avoir 80, peut-être. Là. Il s'en venait vieux, puis il disait, bon, je veux pas que l'âge, ça soit quelque chose dans ce débat-là. Donc, l'inexpérience et la jeunesse de mon opposant, je ne vais pas l'amener. Là. Son opposant qui avait genre 60 ans, là, mais tu sais, il est drôle, là, cet homme-là. En tout cas, c'est juste ça que je voulais dire par rapport à Ronald Reagan. Vous irez regarder, il y a des clips quand même pas mal drôles.
Absolument.
De Ronald Reagan.
Et peut-être qu'en écoutant des clips de Ronald Reagan, on pourra rire franc ou bien rire jaune,
exact.
Rire gras, rire aux éclats peut-être, rire aux larmes, rire nerveux, peut-être ricaner. Comme quoi, le rire, c'est un axe, c'est une fonction humaine, c'est à facettes multiples, c'est normé, structuré. Mais pourtant, on l'a vu, c'est tellement mystérieux, c'est peut-être même inaccessible pour certaines personnes dans certains cas. Parfois, ça marche, parfois, ça floppe. C'est une source de lien social, comme tu l'as mentionné, François. Ça peut être aussi une source de scandale, de tollé. Mais une chose est sûre, le rire, c'est quelque chose d'universel, puis c'est plein de sens quand on s'y attarde.
Ah, oui. Des fois, c'est la seule forme de sens qui reste devant l'absurdité de la vie, ça.
Oui. C'est
une super belle conclusion, ça. Donc, on entend en ce moment un extrait de Mary Poppins, une chanson qui s'appelle « I love to laugh ».
Oh.
Donc, c'était... Ben oui, on l'a pas annoncé, mais c'était le dernier épisode du Cabinet des banalités
pour
cette saison estivale, pendant lequel on a parlé du rire et on a ri en parlant du rire. À la barre de l'émission aux ondes de Chiz 94.3, on retrouvait François Provost.
Bonjour.
On retrouvait Raphaël Laverdière.
Bonsoir.
Et on me retrouvait moi-même, Émile Lapointe. Donc, ce fut un plaisir, cher auditoire, d'avoir passé cette saison avec vous. Donc, je suis certain que mes collègues ont eu autant de plaisir que moi. Et continuez votre écoute, Chiz 94.3. C'est un excellent choix et on a vraiment aimé ça, faire ça pour vous. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci à tous.
I would accompany you, Dana. We all would have such a jolly time.
We love to laugh.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Quoi de neuf tout le monde, c'est Damien pour le Beatnik Show sur les ondes du 96.5 Bas-Saint-Laurent et du 94.3 Québec.
Vous écoutez le Beatnik Show avec Nicolas Leclerc sur les ondes de Chiz 94.3 et de CKMN 96.5.
Hey yo tout le monde, je suis là, oui. Yo, j'espère que vous êtes prêts là par exemple, parce que j'ai de quoi être fou là. À soir, ça va faire boum dans vos subs. Tu sais, les subs dans le système de son, ils vont éclater, là, au pire, là. Même dans le char, n'importe où, sûrement si vous êtes en vacances, dans vos petits, tu sais, les petits speakers, le cellulaire, on les fait éclater à soir. Let's go, gang. Syntoniser CKMN aussi pour les gens sur Internet, sur ordinateur, tout le kit. Tant que ça, comme je vous dis, là, ça va être intense. Tout d'abord, comme c'est un côté comme promis que je suis là, là pour asseoir, là. Ces gars, c'est toujours moi-même, moi, votre animateur Nicolas Leclerc derrière la console de CKMNFM au 96.5 à Rimouski, en direct, oui, et toujours aussi en rediffusion sur les ondes de Radio Chiz 94.3, la radio de l'Université Laval. Ouais, pour vous, les gens de Québec, hein, le Beatnik Show est là aussi pour rester depuis plus de 5 ans en live. Comme ça aussi, à l'instant, en live à partir de la page Beatnik Radio sur les internets. Beatnik Show, Beatnik Radio en live directement. Vous pouvez aussi aller revisionner le live toujours sur la page. Des gros lives en vérité, oui. Aussi en playlist mixée, des grosses playlists d'ailleurs qu'on écoute tout au long de la soirée, mixées de rap québécois. Et on peut se le dire, ici, de l'autotune, c'est rare. Ouais, oui, tu sais, c'est pour les gens qui connaissent pas vraiment le hip-hop, qui écoutent à l'instant, l'autotune, c'est tendance énormément. Ça se parle beaucoup, on s'ennuie du boom-bap, mais là, ouais, oui, c'est très rare justement ici pour combler le manque dans l'industrie du rap boom-bap. Moi, je m'en suis donné un mandat. Ouais. Alors, on commence ce live-là, drette là, une nouvelle pesante de Reptile Rampant, d'ailleurs, dans son titre tout frais sorti, You Know The Name, sur les ondes de CKMN et Radio Chiz pour le Beatnik Show.
Yeah, we do. If you only talk about the truth, loud fact, we coming through. Wrong, I hate the fake news. What? I'm finna put the bullshit. Who could throw the crack rappers? What? See my golden pop? Yeah, yeah, that's my word. God damn it. I stay focused, you put the fuck shit. That's what's up, get fuck it on my face quick. We make it happen. Now we think it's rock steady. Coming, cut them, standing dog, coming, thug them. Creeping like a goblin, blazing like a dragon. Just fly, coming, falcon. Trick up, gun on center. Meanwhile, we laugh and resent it by sucking. Got the freestyle sessions. Got it, belt snaps. Say you won't get the mic back. You're tripping on the setup type of fella. What you see is what you get, prick. We cherche aesthetic pour us to play the victim. Yeah, that's about it. Act like you know punk and I bless to act retarded. Get back to the lab, I hit the slack works. Don't crash, show me specs. No, but there's the fucking fast. Yes, that's the man that's the plasma. What about that? The fuck those meds? It's repugnant, that begins to smack.